Il y a un livre qui a été écrit l'an passé, un livre assez fascinant qui s'appelle « The Way Back ». Ça a sorti en 2018, « Le chemin du retour ». Ces deux auteurs, du nom de Phil Cook et Jonathan Bock, ils se sont arrêtés pour questionner comment ça se faisait. Ils ont analysé comment ça se faisait que l'Église, lorsque l'Église est née au premier siècle, tous ces premiers chrétiens, comment ils ont réussi à vraiment transformer tout le monde occidental en si peu de temps. C'était fascinant. Alors, ils ont fait des recherches et tout ça. Ils ont découvert que l'Église, au premier siècle, a réussi à transformer le monde. Et des milliers de personnes sont venues au Seigneur là, en l'espace de peu de temps, là, des milliers. Ils ont réussi à transformer le monde en faisant des choses qui ont carrément bouleversé puis ébranlé l'Empire romain, les citoyens romains. Les premiers chrétiens, par exemple, prenaient soin des bébés qui étaient abandonnés. Ils ont redonné la dignité à des esclaves. Il y avait plusieurs esclaves, des millions d'esclaves à cette époque. Ils ont soigné des malades, ils ont pris soin des blessés. Puis ils étaient même prêts à mourir pour ce qu'ils croyaient. Après un certain temps, leurs actions, l'action de tous ces premiers chrétiens a eu un impact sur les Romains, si bien que les Romains ont commencé à se poser des questions, ont été intrigués sur ces chrétiens. Alors, ils ont voulu commencer à connaître ces chrétiens et connaître le Dieu de ces chrétiens-là. L'amour et tout le bien que ces premiers chrétiens faisaient a fait ce travail. On sait que c'est Dieu qui est en arrière et qui a fait un réveil puissant par la puissance de son Esprit-Saint. Néanmoins, Dieu s'est servi des mains et des pieds de ces premiers chrétiens qui faisaient du bien aux gens et qui a fait vraiment un réveil, a eu tout un impact sur tout l'Empire romain. L'amour des enfants de Dieu et leur façon de vivre à faire le bien a été majeur pour transformer le monde. Et Dieu a mis dans sa parole cette exhortation que l'on puisse nous aussi faire de même. C'est si important que l'auteur du livre aux Hébreux va nous, le premier message qu'il va nous donner après avoir passé 10 chapitres à montrer la grandeur et la supériorité de Jésus, le premier message qu'il va nous livrer est justement d'agir avec amour et à faire du bien autour de nous. Maintenant, le livre aux Hébreux comprend 13 chapitres. L'auteur va passer les 10 premiers chapitres à nous dire à maintes et maintes reprises comment Jésus est supérieur, Jésus est meilleur qu'eux. Il faut savoir que dans un premier temps, le livre aux Hébreux était écrit à des Juifs et qui subissaient la pression de tout laisser tomber, cette nouvelle foi en Jésus le Messie, parce qu'ils subissaient de la pression de la communauté juive et des Romains, ils subissaient la persécution. On enlevait les maisons, on était bien, tout ça, si bien qu'on se retrouvait dans la rue. Donc, il y a toute cette grosse pression. Alors, l'auteur au livre aux Hébreux veut montrer que, dans le fond, ne retournez pas au judaïsme ou à votre religion ancienne, collez-vous à Jésus-Christ. Ça, c'est le message du livre aux Hébreux. Et parce qu'il est supérieur à. Et là, l'auteur aux Hébreux va passer les 10 premiers chapitres à montrer que Jésus est meilleur. Il est meilleur que. Les 10 premiers chapitres. D'ailleurs, si tu prends juste le mot « meilleur », il va se trouver 19 fois dans le Nouveau Testament, dont 13 fois juste dans le livre aux Hébreux. Jésus est supérieur, Jésus est meilleur. L'auteur va nous montrer que Jésus est supérieur aux anges, Jésus est supérieur à Moïse, Jésus est supérieur à tous les hommes de Dieu inimaginables et les femmes de Dieu qui ont existé. Il est supérieur à tout ça. Il est supérieur aux prêtres, supérieur aux souverains et sacrificateurs. Il est supérieur même au sabbat, qui est le repos de Dieu, cette paix surnaturelle qui vient de Dieu. Il est supérieur au temple, supérieur. Il a une plus grande position, une plus grande alliance. Il a un plus grand sanctuaire. Et lui, il s'est offert comme étant le plus grand sacrifice. Alors, Jésus le meilleur, il est le plus grand, il est tout ce dont nous avons besoin. Et là, tout d'un coup, on arrive à un tournant au chapitre 10, verset 19, où l'auteur nous dit maintenant comment on devrait vivre à la lumière de la grandeur et la supériorité de Jésus-Christ. En d'autres mots, parce que Jésus est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, à tous les prêtres, à tous les sacrificateurs, à toutes les religions, supérieur au sabbat, au temple, il a la plus grande position, meilleure alliance, le meilleur sacrifice, et qu'il est le seul à pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Compte tenu de cela, maintenant. Alors, Voici trois conséquences, nous dit l'auteur, que la grandeur de Jésus devrait entraîner chez celui qui place sa foi en Jésus-Christ. On veut les regarder ensemble, et ça se trouve au chapitre 10 du livre aux Hébreux. Hébreux, chapitre 10, et on va lire des versets 19 jusqu'au verset 25. Hébreux 10, verset 19, verset 25. Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 25. Ainsi, voyez ce petit mot-là, ainsi, ça nous indique tout ce qui vient de précéder, les 10 premiers chapitres avant, là. Ainsi, en conséquence, en d'autres mots, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et ça fait allusion évidemment au jour du retour de Jésus-Christ. Le verset 19, comme on l'a vu, commence avec le mot « ainsi ». Alors, chaque fois qu'on a ce mot-là, ça donne justement l'indice que c'est une conséquence de tout ce qui a été dit au préalable. En d'autres mots, à la lumière de tout ce qui a été dit sur Jésus, de sa grandeur, de ce qu'il est le plus grand, que nul ne se compare à lui, compte tenu de la supériorité de Jésus et tout ce qu'il a accompli pour nous, on a maintenant trois actions à prendre qu'on voit ici. Premièrement, approchons-nous de Dieu avec assurance. Collons-nous au Seigneur, approchons-nous de Dieu, prions, ayons un temps avec lui. Approchons-nous de Dieu avec assurance. Verset 19 dit, nous avons un libre accès au sanctuaire. Verset 21, de plus, nous avons un souverain prêtre. Alors, verset 22, approchons-nous donc avec assurance, avec une foi inébranlable. On peut maintenant venir dans la présence de Dieu avec assurance dans la prière. On peut dire, aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui ce qui se transmet, il y a beaucoup de familiarité avec Dieu. Et c'est juste, la Bible le dit. C'est effectivement ce que la Bible enseigne. Si on vient à Jésus pour recevoir son salut, nos péchés sont pardonnés, on était adopté dans sa famille, le Saint-Esprit vient habiter en nous et on change de l'intérieur. Alors nous avons absolument le droit de venir nous approcher de Dieu et de l'appeler Père. La Bible dit même que le Saint-Esprit en nous nous fait communiquer Père, Papa. Comme on a cette relation intime avec Dieu et c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. On a maintenant donc une relation personnelle avec le Père. Tout ça est vrai. Mais on oublie parfois à quel point Dieu est saint. Il est comme un feu. Et c'est la raison du sacrifice de Jésus-Christ pour que ce feu ne soit plus une menace pour nous. Le sacrifice de Jésus nous épargne du jugement de Dieu. Dans Romains 8, il est dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » L'auteur aux Hébreux nous donne donc ce message. Comprenez à quel point les choses ont changé grâce à Jésus-Christ. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament, le seul à pouvoir entrer dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu qui était dans le temple à Jérusalem, le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint, il y avait différents compartiments dans le temple, le lieu très saint, c'est là que résidait Dieu, et le seul à pouvoir entrer dans la présence de Dieu, c'était le souverain sacrificateur. Une seule personne, et une fois par année seulement. Personne ne pouvait entrer dans cette présence parce que Dieu était trop saint. Lorsque Jésus est venu et qu'il s'est offert en sacrifice, son sacrifice était le paiement parfait et complet pour tous les péchés du monde. Grâce à ce sacrifice, on peut maintenant entrer dans la présence de Dieu. D'ailleurs, lorsque Jésus était sur la croix et qu'il s'offrait en sacrifice et qu'il a dit « Tout est accompli », le voile dans le temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint et que les gens ne pouvaient pas franchir, sinon le souverain sacrificateur une fois par année, ce voile-là qui séparait Dieu saint des pécheurs, c'était un gros voile. Et lorsque Jésus a dit « tout est accompli sur la croix », ce voile a déchiré d'en haut jusqu'en bas, montrant que maintenant nous pouvons avoir accès dans la présence même de Dieu grâce au sacrifice parfait et accompli de Jésus-Christ, ce sacrifice qui est suffisant pour couvrir tous nos péchés. On peut donc s'approcher de Dieu avec assurance. Et pourquoi on a ce privilège-là? Deux raisons. Premièrement, le texte nous le dit, nous pouvons entrer librement et avec assurance dans la présence de Dieu parce que Jésus a payé pour nos péchés en s'offrant comme sacrifice ultime. On le voit au verset 19. « Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. » Alors, la seconde raison qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance, c'est que Jésus lui-même intercède maintenant pour nous comme l'ultime sacrificateur. Il est auprès du ciel et il intercède pour toi. Il plaide pour nous. Verset 21, « De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. » Est-ce qu'on réalise ça, que Dieu et que Jésus se tient auprès du Père et il intercède pour nous comme un avocat? Il plaide pour nous. C'est ce que nous dit 1 Jean 2, 1. « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il est lui-même la victime expiatoire pour nous, pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Imaginez le portrait ici. On se tient coupable devant Dieu. On est pécheur, et notre péché nous a séparés d'avec Dieu. Alors imaginez la scène. Ce n'est pas vous qui prenez votre défense. C'est un avocat. Il est l'avocat de la défense, et il est là pour vous défendre, Jésus-Christ. Alors imaginez bien la scène. Vous êtes là devant le juge. Vous êtes coupable. L'avocat de la défense se lève, et c'est Jésus, et il vous défend. Mais ça donne que votre avocat est aussi le juge. En plus, votre avocat a déjà pris sur lui votre sentence. Hey, c'est pas super. C'est le portrait qu'on a ici. Non seulement Jésus a payé pour nos péchés, mais en plus, il intercède pour nous. Il est le juge, il est le jury, il est l'avocat de la défense, puis il a même donné le chèque pour payer la dette que tu avais envers Dieu. Est-ce que j'entends des « Amen » ici? Fait que tu as un libre accès maintenant. Tu peux entrer avec assurance. Tu peux aller voir Dieu avec assurance à cause de ce que Jésus a fait. Hey, c'est une bonne nouvelle. Voici une deuxième action à prendre, étant donné la grandeur de Jésus et tout ce qu'il a accompli pour nous autres. Quand ça va mal, ne perds pas courage. Garde l'espoir. Quoi qu'il arrive, gardons l'espoir. Regardez le verset 23, Hébreux 10. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Maintenant, les premières personnes à qui s'adressait cette lettre étaient des chrétiens qui subissaient la persécution. C'était vraiment pas facile d'être chrétien, des croyants, comme à certains endroits dans le monde entier en ce moment. Plusieurs étaient bannis de la communauté, perdaient leur emploi juste parce qu'ils avaient choisi de suivre Jésus, de marcher avec lui. Ils avaient reconnu Jésus comme leur sauveur. Alors, ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire, c'est que à tous ces gens qui passent par ces moments difficiles, et à nous, parce que ça nous arrive aussi de passer par des moments très difficiles, ce qu'il est en train de dire, c'est que regarde comment Jésus est le plus grand et comment il a été fidèle à accomplir toutes ses promesses dans le passé. Personne n'a jamais agi comme lui. Personne ne se mesure à lui, personne ne se compare à lui. Accroche-toi à l'espoir, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Depuis le début du livre aux Hébreux, l'auteur nous montre que tout ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, qu'il allait envoyer un sauveur pour régler le péché une fois pour toutes et nous réconcilier avec Dieu. Toutes ces nombreuses promesses que Dieu avait données depuis des centaines et des centaines d'années dans l'Ancien Testament, il les a accomplies lorsque Jésus s'est offert en sacrifice. Plus de 300 prophéties, des prédictions données 600 ans, même beaucoup plus loin dans l'Ancien Testament, ils ont été accomplis lorsque Jésus s'est offert en sacrifice. Alors, ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire, lorsque tu pars à travers des moments difficiles, regarde en arrière, regarde comment Dieu a été fidèle à accomplir ses promesses. Des centaines de promesses. D'ailleurs, il y a un érudit qui a compté qu'il y aurait plus de 8000 promesses dans la Bible. Et toutes les promesses de Dieu à l'égard de Jésus ont été accomplies. Donc, il va accomplir les promesses qu'il a faites à ton égard. Dieu est un Dieu de promesses et Dieu est un Dieu qui garde ses promesses. Jérémie 1:12 dit, « Le Seigneur dit, je veille à réaliser ce que j'ai dit. » Josué 21:45 dit, « Ainsi, toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent et pas une seule ne resta sans effet. » Dieu livre ce qu'il promet. Amen. Dieu livre ce qu'il promet. Quand tu sais tout ce que Dieu a promis à ton égard, ton stress, tes inquiétudes baissent. Dieu t'a promis de t'aider. Il t'a promis sa sagesse, sa présence, sa puissance, son pardon, son guide. Il t'a promis le ciel et plein d'autres choses. Et Dieu livre ce qu'il promet. Il l'a démontré avec la venue de Jésus-Christ. Alors, quand tu as peur, et ça nous arrive tous, regarde tout ce qu'il a promis dans l'Ancien Testament et rappelle-toi comment il a été fidèle à accomplir tout ce qu'il avait promis. C'est ça qui va nous donner du courage. Dieu veut qu'on construise notre vie sur ses promesses. C'est pour ça qu'il dit au verset 23, « Retenons fermement l'espoir. Accroche-toi à l'espoir qu'on a, parce qu'il est fidèle. » L'auteur a dit exactement la même chose, ou sensiblement la même chose dans le chapitre, quelque plus tôt, dans le chapitre 6, il a dit dans le chapitre 6, 19, « Cette espérance, cet espoir, on la possède comme une ancre solide et sûre de l'âme. » Elle pénètre derrière le voile, c'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Grâce à Jésus, on a cet espoir qui est solide, qui est comme une ancre. L'ancre, c'est majeur. Moi, je me rappelle, j'ai déjà eu un bateau, puis je suis tombé en panne sur la rivière d'Outaouais. Puis ça ne paraît pas, quand tu regardes comme ça, ça a l'air calme. Il y a du courant pas mal là, sur la rivière d'Outaouais. Et là, je suis tombé en panne, j'avais plus de gaz, alors j'ai appelé la marina. Et puis, tout de suite, la première chose que le gars me dit, « Écoute, mets ton ancre !» Tout de suite, sans ça, tu vas partir à la dérive, puis je te le dis, tu vas t'accrocher, tu vas avoir des accidents. Et moi j'étais là, je regardais, puis j'ai dit, ouais, mais ça allait être tranquille. Il dit, mets ton ancre. Le gars m'obstinait, il arrêtait pas de me dire, mets ton ancre. Eh bien, vois-tu, on a une ancre, nous, les enfants de Dieu. C'est en Jésus-Christ, puis c'est solide, mon ami, ça ne décrochera pas. Alors, accroche-toi à l'ancre, c'est l'espoir qu'on a grâce à Jésus. Les gens n'ont pas beaucoup d'espoir aujourd'hui dans le monde. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, ça le démontre. Le professeur William Marston de l'Université de New York a demandé cette question, imaginez, à 3000 personnes. Pour quoi vis-tu? Hey, 3000 personnes. Il a été tellement surpris de découvrir que 94 % des gens ne faisaient qu'endurer le présent en attendant l'avenir. Ils attendent que quelque chose arrive, ils attendent l'année suivante, ils attendent des temps meilleurs, ils attendent que quelqu'un meure et attendent demain. Tellement de gens vivent sans espoir. Ils font que survivre dans le monde, ils mettent qu'un pied en avant de l'autre, sans aucun espoir sur lequel s'accrocher. Mais l'espoir du chrétien est solide. On a cet espoir comme une ancre pour l'âme, ferme, solide et sûre. Et cette ancre est ancrée, est entrée dans le sanctuaire derrière le voile où Jésus est entré avec nous pour nous. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? L'ancre est entrée derrière le voile, en présence même de Dieu. Cette ancre est solidement accrochée à la vie de Jésus, à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus, à l'ascension de Jésus, au règne de Jésus et à l'intercession de notre Seigneur Jésus. Cette ancre est fixé à la main droite de Dieu. Notre ancre n'est pas fixée dans la mer, mais dans le ciel, dans le Saint des Saints, elle est ancrée dans la présence même de Dieu. Alors, si dans notre voyage ici sur terre, il y a des vents violents qui font rage ou on fait face à l'épreuve, on peut s'accrocher à l'espoir qu'on a à Jésus-Christ parce que c'est du solide. Jésus a été fait malédiction afin que nous puissions entrer dans sa bénédiction. Alors soyons courageux quand les temps difficiles arrivent. Soyons courageux. Verset 23, pourquoi? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors approchons-nous de Dieu avec assurance, gardons le courage. Et troisièmement, troisième action à prendre, encourageons-nous en Église à mieux aimer et à faire le bien, à faire des bonnes actions, à faire des bonnes œuvres. Regardez ça, Hébreux 10, 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En d'autres mots, aidons-nous mutuellement en assemblée à mieux aimer et à faire du bien. Il s'agit de s'entraider et à s'aimer d'un amour sincère et vrai et à faire de bonnes œuvres. Pourquoi on a besoin d'aide et d'encouragement à mieux aimer et à faire de bonnes œuvres? Bien, c'est au cœur de ce que ça signifie que de suivre Jésus-Christ puis d'être un disciple. C'est de cette façon-là que les premiers chrétiens ont bouleversé tout l'Empire romain où des milliers de personnes sont venues à Jésus. On a besoin donc de s'encourager d'abord à mieux aimer, à aimer de mieux en mieux. C'est quoi l'amour? Mais la Bible décrit l'amour comme une action envers des personnes. L'amour, ce n'est pas décrit en mots émotionnels. Ce n'est pas des sentiments, l'amour. C'est des actions. L'amour tel que vu par Dieu, dans 1 Corinthiens 13, c'est des mots d'action. Et c'est ce qui explique qu'on peut aimer même nos ennemis. Parce que s'ils nous ont fait du mal, en dedans, on n'a pas des émotions positives envers des gens qui vont nous faire souffrir. Mais on peut les aimer parce que c'est un mot d'action. Prenons la définition d'un Corinthiens 13. Avez-vous remarqué la définition d'un Corinthiens 13? On va en prendre juste un. L'amour est patient. Maintenant, regardez ça un moment, c'est quand même spécial. La Bible dit que l'amour s'exprime par la patience. En dedans, on peut être frustré, mais on n'explose pas. C'est ça, l'amour. Moi, l'autre jour, j'étais sur mon paiement. Et là, il y a quelqu'un qui m'a coupé, mon ami. Là. Hey, il a quasiment rentré là, sur mon pare-choc en avant. Là. Et il était vite. Il y avait des voitures partout. Puis il s'est faufilé juste en avant de moi. Et je te dis, je pensais vraiment qu'il me rentrait dedans. Là. C'était comme, wow. Puis ça s'est fait vite. Il a pris une chance. C'est comme s'il y avait des voitures partout. Puis il a pris une chance. Je n'étais même pas sûr qu'il réussirait à rentrer entre les voitures. Puis ça s'est fait vite, la dernière seconde. Là, puis vite. En dedans, là. En dedans, là, j'étais frustré, en colère, j'étais pas de bonne humeur. Et mon ami, moi, avant d'être chrétien, là, vous savez ce que j'aurais fait? Et je l'ai fait. Une fois, j'ai été coupé par une moto. Je ne m'en vante pas, là. J'ai été coupé par une moto. Je suis parti après. Je l'ai retrouvé à quelque part. Je suis sorti de la voiture et on est allé se battre sur le terrain d'un voisin. La police a été obligée de venir. Un voisin avait téléphoné. Hey, fait que j'ai cette nature-là, là, tu sais. C'est là, là. Mais maintenant, Dieu est en train de me changer. Fait que si vous me coupez, vous risquez d'être correct, mais. Hey, non, mais je peux-tu vous dire que j'étais frustré, j'étais en colère, puis j'étais sur la route, là, puis. Maintenant, ça donne que la lumière devient rouge. Il arrive, il s'est dépêché comme un fou, il se dépêche, il arrive à la lumière rouge. Alors, moi, j'arrive juste à côté. Hey! Bon, j'avoue que j'étais bien de bonne humeur de savoir qu'il finalement, il était sur la rouge en même temps que moi. J'avais le goût d'ouvrir la fenêtre et de dire, « Ça t'a donné quoi? » Hey, j'ai rien dit. Rien dit. Mais en dedans, j'avais tellement de colère. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que j'ai aimé, là? L'amour est patient. Maintenant, entre toi et moi, là, si tu as besoin de patience, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas bien. OK? L'amour est patient. Maintenant, quand je suis à Cancun, sur le bord de la mer, je n'ai pas besoin de patience. J'ai besoin de patience quand il y a quelqu'un qui me coupe comme ça, puis là, en dedans, ça rage. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je suis patient. Vois-tu? L'amour est un mot d'action. C'est comment tu vas agir. C'est comme quand tu es marié. Même chose. Ceux qui sont mariés, là, est-ce que ça vous arrive d'être frustré des fois par votre conjoint? Levez la main, je vais voir ça haut. Je prends des notes. Hey, moi, ça m'arrive aussi, là. On est humain, ça m'arrive aussi. Je vais vous dire, je vais vous confesser quelque chose, OK? Ma femme ne sait pas que je vais parler de ça, là, mais... Chez nous, je fais la balayeuse. C'est moi qui fais la balayeuse. Je fais ça la journée congé, lundi, là, je fais la balayeuse, je passe ça sur le plancher. Moi, ma femme, des fois, elle me connaît. Ma femme, oh, tu ris pas, chérie, c'est comme... Ma femme me connaît, ma femme, c'est une femme très propre, puis elle sait que des fois, j'oublie. Des fois, je passe tout droit, puis tout ça, puis... Alors, de temps en temps, non, pas de temps en temps, pas mal souvent, elle va me dire, comme le dimanche, parce que le lundi, c'est le lendemain, fait qu'elle va me dire, avec gentillesse, puis je suis content qu'elle soit de même, je suis content qu'elle soit propre, puis je suis content, j'aime ça, avoir une maison propre, tout ça, c'est parfait, pas de problème, là. Je critique pas ma femme, c'est super. Mais de temps en temps, elle sait que ça se peut que j'oublie. Alors, elle va juste, comme dimanche, après-midi, tu sais, se préparer pour le lendemain, elle dit, puis elle fait très, avec beaucoup de subtilité, puis gentillesse, elle va dire, Penses-tu d'avoir le temps, peut-être demain, de passer la balayeuse? Mais c'est mon orgueil. C'est mon orgueil parce que là, elle est en train de me dire, Normand, je sais que tu as oublié, fait que je veux te le répéter. C'est mon orgueil. Ça me frustre. Ça me frustre en dedans. Mais c'est pas ma femme. Ma femme est correcte. Elle fait bien parce que peut-être que je vais oublier. Elle fait bien. Pas de critique, chérie. Absolument pas. Bon, on va aller au restaurant après, chérie. Je vais te... on va... on a des frustrations comme ça. Mais l'amour est patient. Alors, est-ce que je commence à engueuler? Veux-tu arrêter de me dire ça? Laisse-moi non tranquille. Je le sais. Il faut que je passe la balayeuse. L'amour est patient. En dedans, oui, il y a des frustrations, mais ça ne sort pas. Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est de l'amour? Absolument! Je t'aime, chérie. L'amour est patient. L'amour, c'est une action. Maintenant, même si tu ne te sens pas bien à l'intérieur, tu te retiens, tu te contrôles, tu te maîtrises. Ça, c'est de l'amour. L'amour est patient. C'est un exemple. L'amour ne garde pas un record sur le nombre de fois qu'on va nous blesser. L'amour, selon la définition du Seigneur qui nous donne en Corinthiens 13, c'est des gestes, c'est des actions. Et quand on devient un enfant de Dieu, le Seigneur commence à mettre en nous ce nouveau comportement et je vais aimer les autres de plus en plus comme selon ce que le Seigneur définit comme étant l'amour dans Corinthiens 13. Alors, on a besoin de s'encourager d'abord à mieux aimer, mais aussi à faire de bonnes œuvres. Éphésiens 2,10 dit, « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. » Maintenant, voici le problème. Je peux être conscient et savoir que j'ai besoin d'agir avec plus d'amour. Le Saint-Esprit peut même m'inciter à aimer plus. Mais quand c'est le temps d'agir, par exemple, c'est pas aussi facile, vois-tu? Alors, qu'est-ce que tu fais pour passer de bonnes intentions à la réalité. On fait quoi? Eh bien, quand c'est le temps d'agir, même si c'est difficile, on regarde le passage qui va suivre au verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Quel est le meilleur moyen de nous améliorer sur notre façon d'aimer les autres puis de faire le bien? » L'auteur donne la réponse. « N'abandonnons pas notre assemblée. » En d'autres mots, le secret pour transformer nos intentions, nos bonnes intentions en réalité, à mieux s'aimer et à mieux aimer les autres et à faire le bien, c'est par l'appui, le soutien, le support et l'encouragement des autres enfants de Dieu. Quand je regarde ma vie, je me rappelle, moi, certains jours où je me suis tenu avec certaines personnes qui faisaient sortir le méchant Normand. Mais j'ai besoin de réaliser que j'ai besoin des hommes et des femmes de Dieu autour de moi qui vont faire sortir de plus en plus le meilleur de Normand. Maintenant, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que si nous voulons mener une vie empreinte d'amour et faire le bien, le secret, c'est de se tenir dans la famille de Dieu. n'abandonnons pas notre assemblée. 1 Corinthiens 15, 33 dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Et Proverbe 13, 20 dit, « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente les hommes stupides se trouvera en mauvaise posture. » Qu'est-ce que ça dit, le Proverbe? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire, c'est qu'on devient comme ceux avec qui on se tient. OK? On devient comme ceux avec qui on se tient. D'ailleurs, la recherche le soutient. Le Dr. David McLellan de l'Université d'Harvard a mené des recherches et a découvert que les gens qui s'associent, les gens avec qui on s'associe habituellement vont déterminer 95% de nos réussites et nos échecs dans la vie. David Burke, qui est professeur d'université en commerce, parle de l'une des plus longues études qui a été amenée sur l'influence des autres sur nous. Ils appellent ça l'étendue de l'influence sociale. C'est une étude qui a duré 30 ans, donc là, ils peuvent vraiment faire des liens de cause à effet. L'étude touchait pas quelque chose, la santé, tout ça, même la cigarette. Par exemple, ils ont découvert que si tes amis fument, tu as 61% plus de chances de fumer toi aussi. Et puis, la recherche a aussi touché le bonheur. Si tu tiens avec des gens heureux, ça a un impact sur ton bonheur. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'on arrive à la place où il faut être intentionnel dans le choix des gens avec qui on se tient. Les gens avec qui on se tient sont l'une des plus grandes influences qui vont affecter tes comportements et tes attitudes. L'un des auteurs qui a passé une quarantaine d'années à étudier toutes les relations et tout ça, dit « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu te tiens le plus souvent. » Eh bien, c'est ce que la parole de Dieu nous disait déjà dans le livre des Proverbes. Et Proverbes 27, 17 dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Maintenant, pourquoi est-il si important de grandir ensemble? Pourquoi l'Église est si importante? Très vite, le christianisme, c'est un sport d'équipe. Tu ne veux pas faire ça seul, en solitaire. Je sais que notre culture dit que c'est privé, la foi et tout ça. Absolument pas. Ce qu'on voit dans les Écritures, ce n'est pas ça. On a besoin de la communauté, on a besoin de l'Église. Et ensemble, on peut se fortifier et s'édifier. 1 Corinthiens 12 le dit bien, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Et l'Église, c'est le corps de Christ, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est un corps, plusieurs membres. Et chaque membre de ce corps va affecter les autres membres de ce corps. Une autre raison qu'il est préférable de grandir ensemble, c'est que l'Église, c'est le plan A, puis il n'y a pas de plan B. L'Église est le moyen et le seul moyen que Dieu a choisi pour édifier les croyants et faire des disciples. Une autre raison, c'est que certaines décisions sont trop importantes pour prendre tout seul. Tu as besoin des gens sages autour de toi avec qui tu peux parler. Proverbe 15, 22 dit « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » On a besoin de recevoir des conseils de femmes de Dieu et d'hommes de Dieu autour de nous qui ont de l'expérience, qui marchent avec Dieu depuis plusieurs années et qui connaissent la Bible plus que moi. Une autre raison qu'on a besoin de grandir ensemble, c'est que certaines épreuves sont trop lourdes pour être supportées toutes seules. Et l'Église est là pour aider, pour nous encourager, ça dit porter les fardeaux les uns des autres. Une autre raison, c'est qu'on a besoin de grandir ensemble, c'est que certaines tentations sont trop fortes pour résister toute seule. On a besoin de la prière des frères et des sœurs, de l'encouragement des autres, des frères et des sœurs, toute la question de redevabilité et tout ça. On a besoin de s'entourer. C'est pour ça qu'on a des groupes maison, des groupes connexion, groupes de femmes, d'hommes, des groupes communion, groupes maison. C'est justement pour ça, s'édifier mutuellement. Alors, si nous sommes le corps de Jésus-Christ, nous appartenons les uns aux autres, si nous sommes pour considérer comment on peut s'encourager à mieux aimer et faire le bien encore plus, nous devrons mettre de côté notre vie privée et nous investir dans la vie des autres et laisser les autres, donner le droit aux autres de s'investir dans notre propre vie. Parce que c'est là que l'amour va grandir et on va apprendre à faire le bien de plus en plus. Alors, approchons-nous du Seigneur, gardons courage quand les temps sont difficiles, et encourageons-nous à mieux aimer et à faire le bien. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier pour ta parole. Ce message si important de cet auteur aux Hébreux que tu as inspiré et nous rappeler que nous pouvons entrer librement et avec assurance dans ta présence. Et nous pouvons, Seigneur, nous avons cet avocat près de Dieu qui intercède, qui plaide pour nous grâce à Jésus. Nous avons cette libre entrée. Nous avons Jésus qui intercède pour nous. Et Seigneur, on veut te remercier pour ça, parce que c'est une ancre solide auquel on peut s'accrocher. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Et troisièmement, Seigneur, nous voulons te demander comme Église que nous puissions être une Église où les gens peuvent apprendre à mieux s'aimer. Donne-moi l'humilité, donne-nous l'humilité à ouvrir nos cœurs les uns envers les autres, à être honnêtes, transparents. Donne-nous cette grâce de pouvoir vraiment nous investir dans la vie des autres et que les autres s'investissent dans notre vie, Seigneur. Qu'on soit une Église reconnue, d'être une Église pleine d'amour et qui fait le bien autour d'elle, au nom de Jésus. Amen.